Attention, ok, 1, 2, 3. Anne-Line et Monsieur.
Une émission de Anne-Line et Monsieur.
Ok. Bah, mais, non mais attends, bah, comment on fait? Parce que là on n'a pas prévu de musique ni rien.
On se dit... ouais, on se dit ce qu'on fait quoi.
Anne-Line et Monsieur.
Une émission de Pierre. Anne-Line et Monsieur.
Et Madame.
Un mardi sur deux sur Jet FM
91.2
et toujours
en direct.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Jet FM, il est 22h30 et tout de suite, Anne-Line et Monsieur.
Pince à glaçons.
Combinaison en latex jaune.
Palmier.
C'était Cornemuse.
Cornemuse. C'est une histoire qui parle de vie, d'amour, de mort, et ça se passe en Bretagne.
Alors, c'est l'histoire de Beatrice. Qui arrive en Bretagne. Elle avait décidé d'y passer ses vacances puisqu'elle était toujours attirée par la Bretagne. Ce qu'on lui a raconté sur la Bretagne, c'est que c'était un pays qui était fier, orgueilleux et bien accroché à son bout de granit. Quand elle arrive en vacances là-bas, elle croise un local qui est appelé Malo. Malo, c'est un gros dragueur, cheveux longs, boucles d'oreilles jusqu'en haut des oreilles. Et il faut imaginer qu'on est à la fin des années 80 et la technique de drague de tous les gars à cette époque, c'est en gros un jean bien moulant allongé sur le capot de la 504 et tu te gardes devant la boîte, donc la boîte c'est le Cap 3000, la fenêtre est ouverte et par la fenêtre on peut entendre la cassette qui est à l'intérieur de la voiture qui est en train de diffuser les Doors. Malo, il est éleveur de serpents et il a trouvé une technique qui consiste à ne pas tuer la bête. Il récupère la mue pour fabriquer des vêtements. Donc il se fait ses chemises, son manteau, son pantalon et je crois même qu'il fait ses sous-vêtements avec la mue du serpent. Un soir, il est devant le Cap 3000 et là il croise Beatrice qui s'est complètement apprêtée. Elle porte des boucles d'oreilles, des créoles. Elle a un rouge à lèvres carmin, du maquillage bleu électrique, du fard à paupières bleu électrique. Et là, Malo, il la voit arriver, il n'a qu'un réflexe, il bondit du capot devant elle. Il se présente devant elle, il s'arrête. Et là, il regarde sa voiture, il monte l'arrière de la voiture et il lui dit un truc genre « Dis donc la louloute, si tu montes à l'arrière du bolide, je vais te montrer ce que ça fait de sentir la liberté. » Après ce coup d'éclat, mais là c'est le coup de feu. Beatrice, elle tombe complètement amoureuse et en fait elle repartira jamais en Italie. Elle était venue pour passer ses vacances et là elle s'installe en Bretagne. Elle s'installe en Bretagne avec, avec Malo et ils vont prendre, ils n'ont pas une thune, donc ils vont prendre une caravane sur un espèce de terrain complètement perdu au milieu de la Bretagne. Et de cet amour et de ce sexe non protégé naît un enfant qui s'appelle Alan. La naissance d'Alan, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde, mais il y a quand même un hic, c'est que maintenant qu'ils ont un enfant, il va falloir trouver du boulot. Et donc, Beatrice et Malo, ils se retrouvent comme ça, de passer d'un état de jeunesse complète à devenir des parents, quoi. Donc, Beatrice, elle active son réseau d'expats italiens et elle trouve assez facilement, finalement, un boulot à temps plein de pleureuse sicilienne. Donc, sa journée de travail, c'est quelque chose d'assez classique. En gros, elle commence par avoir une réunion avec la famille. Donc, elle présente ses références, voilà, et elle propose différents services, puisque tu peux avoir une version assez dramatique et démonstrative, donc comme on peut l'imaginer, ou quelque chose de plus discret et sobre, en fait. Dans un deuxième temps, elle se prépare. Donc selon ce qui a été choisi, elle s'adapte. Donc ça veut dire qu'elle a des vêtements, du maquillage. Donc soit ça va être des vêtements très flashy, très sombres. Le maquillage, en fait, elle va essayer d'augmenter les expressions de son visage et donc de mettre en valeur ses émotions. Donc tout ça en accord avec la famille. Et ensuite vient la cérémonie. Et c'est là que commence vraiment l'art, on va dire, de la pleureuse sicilienne. Ça commence très, très bas, donc c'est un genre de crescendo. Pendant la cérémonie, elle se met à marmonner et elle se met à se répéter un petit peu. Donc elle a des phrases qu'elle répète en boucle, mais très très basse, très très basse. Donc c'est quelque chose qui est là, qui est dans la pièce en fait, qui envahit un petit peu l'espace, mais sans jamais vraiment se montrer que ça existe. Donc on sait que quelque chose est un peu étrange, c'est dans un climat, mais il n'y a jamais vraiment d'éclat. Puis ensuite c'est sa respiration qui commence à tressauter, quoi. Par moments, sa respiration, elle coupe le silence. Et on voit bien que quelque chose vient d'exploser, mais on sait pas vraiment d'où ça vient. Donc les gens n'osent pas se retourner, n'osent pas regarder, quoi. Et plus le temps avance, en fait, à la fin, ça arrive. Ce qu'on attend d'elle, c'est l'explosion de sentiments. Donc là, des sanglots, carrément, on passe sur des pleurs qui déchirent complètement le calme de l'église. Là, il n'y a plus de possibilité de penser que rien ne se passe, quoi. Donc, les gens ne peuvent pas faire semblant complètement que quelqu'un n'est pas en train de pleurer à côté d'eux, quoi. Donc, les gens regardent. Et pour monter encore un peu d'un cran la situation, le corps rentre en jeu. Donc là, les genoux se mettent à terre, les mains se tendent, attrapent les poignées de laiton et les mains en l'air viennent frapper la poitrine. Et c'est un peu le point nucléaire de cette cérémonie. Une excellente pleureuse. Elle a aidé plus d'une âme à trouver son chemin vers la tristesse. Malo, pour lui, il essaye de lancer sa gamme de vêtements puisqu'il était déjà là-dedans. Et c'est un peu la mode aussi d'avoir des vêtements qui ont une origine naturelle. Donc la mue de serpent, ça marche plutôt bien. Lui, son objectif, ce serait vraiment de pouvoir travailler avec des marques de luxe. Il a son propre procédé, donc c'est un peu spécial. En fait, il utilise la peau de serpent et il arrive à la rendre très souple, un peu transparente et jaune, comme une sorte de combinaison jaune en latex. Et le problème, c'est que les marques de luxe n'en veulent pas, quoi. Il se fait quand même un petit nom sur la place, donc il a un groupe qui s'appelle les Latex Allergic Sadomasochists, qui est une association d'amateurs de BDSM allergiques au latex, qui lui achète beaucoup d'exemplaires. L'avantage, c'est que en fait, ces combinaisons se déchirent assez facilement, donc l'effet est plutôt réussi pour un effeuillage rapide, voire un peu brutal. Grâce à leur métier, les deux parents arrivent à joindre les deux bouts, mais très vite, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas avec le petit Alan. Alan n'est pas très expressif, il ne regarde pas dans les yeux. Et maintenant qu'Alan a 3 ans, les parents se rendent compte qu'il ne parle pas. Et ils commencent à s'inquiéter. Malo a une cornemuse. En fait, cette cornemuse, elle lui sert pour endormir ses serpents. C'est une cornemuse un peu spéciale, puisqu'il a demandé à son luthier d'y installer des clés, ce qui lui permet d'avoir des quarts de ton. Donc, de cette tonalité, il peut avoir une musique modale qui sort de sa cornemuse. Sa cornemuse, elle lui sert à endormir ses serpents. Et en fait, un jour, il se dit « Ok, mon fils, il parle pas, il a pas d'émotion, y a rien qui sort de lui. » Je vais l'aider, en fait. Il sait que ça peut servir, que ça a existé pour d'autres personnes. Il se dit, je vais lui donner des cours de cornemuse pour qu'un son puisse sortir de lui et qu'il puisse ressentir au moins que la vibration de la cornemuse puisse lui procurer une émotion, quoi. Le problème, c'est que Alan, il souffle. Et en fait, c'est pas un bruit qui sort, c'est une espèce de note. C'est pas du tout ce qu'on attend d'une cornemuse à 3 bourdons et toutes les clés pour faire des quarts de ton, quoi. Béatrice, elle est inquiète aussi et elle se dit « Ok, en fait, mon petit garçon, il a un problème, c'est qu'il sait pas gérer ses émotions. Enfin, c'est même pas qu'il sait pas gérer ses émotions, c'est qu'il sait pas comment faire. » Donc elle, en tant que grande pleureuse sicilienne, elle essaye de lui apprendre à faire monter les larmes. Donc elle lui explique « Tu fais ça, tu penses à un truc très très fort dans ta tête, tu t'imagines les choses et puis il faut que tu le sens, ça te prend dans ton corps, ça monte. » Et normalement, physiquement, ça devrait sortir, quoi. Et encore, c'est un échec. Alan, il est incapable de pleurer. Donc, ni la cornemuse, ni les pleurs. En fait, ce petit garçon, il n'a pas vraiment d'émotion, quoi. Il y a quelque chose d'étrange qui s'installe. Et on dirait que le mutisme d'Alan semble impacter les émotions de ses parents. Ça, on dirait que ça réduit les émotions de ses parents comme s'il les attirait vers son état. Et en fait, vers les 10 ans d'Alan, Béatrice se rend compte qu'elle, elle a du mal à pleurer. Donc elle se met à conserver ses larmes. Et pour ça, en fait, toutes les larmes qui lui viennent, puisqu'elles ne viennent plus que par intermittence, elle les récupère, elle les conserve, les met dans un petit bol et ensuite fabrique des petits cubes de glace qu'elle met au congélateur. Et Avec ses petits cubes de glace, en fait, elle utilise une pince à glaçons, discrètement. Et elle vient poser le glaçon vraiment juste sous ses paupières. Et elle arrive à cacher le glaçon, mais le temps que le glaçon prend à fondre, ça simule assez bien, en fait, les larmes qu'elle arrive plus à avoir elle-même, quoi. Les années passent, lentes et discrètes, et les voix de Beatrice et de Malo sont toujours là, mais elles sont de plus en plus douces, plus mesurées. Le silence devient leur maison, comme si l'absence d'émotion d'Alan avait effacé doucement les émotions, morceau par morceau. Le matin de ses 18 ans, Alan trouve ses parents morts dans leur lit. Il n'y a rien qui explique leur mort, ils ont juste une absence totale d'expression sur leur visage. Ce jour-là, Alan il regarde les deux corps allongés et pour la première fois de sa vie, il sent dans sa gorge quelque chose qui se noue. C'est la première fois qu'il ressent une émotion et c'est quelque chose d'assez nouveau et d'étrange. Il reste quelques minutes, peut-être quelques heures, dans cette chambre. Il regarde ses parents. Et à un moment, il se lève, il ouvre le placard de son père. Il prend et il enfile une combinaison, la fameuse combinaison jaune souple. Et il prend un autre objet, il prend la cornemuse sous son bras. Il sort de la chambre, il traverse le couloir, il arrive dans la cuisine. Quand il arrive dans la cuisine, il ouvre la porte d'en haut du congélateur et il prend un petit bout de glace. En fait, c'est le dernier petit morceau de glace que Beatrice avait mis de côté pour qui était issu de ses larmes. Il utilise la même pince à glaçons qu'elle utilisait pour simuler ses larmes. Et là, il marche, il sort. Il marche jusqu'au lac et quand il arrive au lac, il se met sur le ponton. Il pose le petit bout de glaçon sur le ponton. Et il le regarde fondre lentement. Thank you. Il reste plus rien du glaçon et il y a juste une petite particule solide qui reste. Il prend la cornemuse, il aspire lentement l'air qui reste dans la poche en sachant que c'est la dernière personne qui a respiré dans cette cour. Et puis il se laisse glisser dans l'eau.
Thank you.